Bonjour à tous, à tous ceux qui nous rejoignent sur le net. Dieu vous bénisse. Ça va bien? Oui, ça marche? C'est un beau dimanche, on est chez nous, tout va bien, par la grâce de Dieu. Nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Cette semaine, nous avons vécu des grandes victoires avec Michou, nous sommes contents. Et c'est des grandes bénédictions. Merci Seigneur, c'est bon, ça fait plaisir. Gloire à Dieu. Amen. Amen. C'est Jésus qui répond à nos prières. Il ne faut jamais oublier que quand on prie, il répond à nos prières si nous sommes des gens de foi si nous sommes fidèles à nos alliances. Voilà ce que je voulais dire. Si nous ne sommes pas fidèles à nos alliances, il n'est pas tenu d'être fidèle, n'est-ce pas, aussi à ce qu'il a promis. Mais quand on est fidèle à nos alliances, alors on a une grande assurance. Amen. Et nous avons une grande assurance. On va lire Jean 1, Jean 4, 18. Jusqu'au verset 21. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Ben évidemment, puisque il craint un châtiment, c'est qu'il a fait quelque chose qui n'est pas trop honnête, quoi. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. Aimer son frère, ça ne veut pas dire faire du lèche-botte. Hein. Aimer son frère, ça peut vouloir dire le reprendre. Dieu nous aime et nous châtie. C'est justement parce qu'il nous aime qu'il nous châtie. Et quand on voit un frère qui a le cou raide, ou une sœur, hein, ça existe aussi les sœurs qui ont le cou raide, eh bien, il faut les reprendre. Il faut agir d'une façon comme le Seigneur agirait. Et voilà, je pense que ça, c'est aussi une manifestation de l'amour. Ça peut être très mal pris, hein. Un enfant, quand on lui flanque une fessée, il n'aime pas, hein. Et pourtant, c'est par amour. Dans son amour, justement, le Seigneur m'a ouvert les yeux sur une chose formidable que je veux partager avec vous ce matin. Il est écrit, comme on vient de le lire, que l'amour parfait bannit la crainte. Au début de ma conversion, j'avais 18 ans, ensuite 19, et puis là j'ai rencontré la sœur Camélia. La sœur Camélia, c'était la maman de Violette, c'est-à-dire la belle-mère de Raphaël le Gitan qui m'a emmené à Jésus. Et c'était pour moi une vieille dame, elle avait 62 ans, hein, je suis plus vieux qu'elle maintenant. Et oui, elle avait 62 ans et elle avait beaucoup de dons surnaturels, elle en avait un en particulier, c'était le discernement des esprits, et la parole de sagesse. C'était une femme, j'ai jamais vu ça, j'ai vu d'autres personnes qui avaient des dons surnaturels, c'était très très beau, mais elle... Ça défie toute imagination. Et Camélia, donc, m'impressionnait beaucoup par la manifestation de son don, surtout de discernement des esprits, parce que avec ce don-là, elle pouvait aider beaucoup de personnes. Et avec l'âge qu'elle avait, elle était sage, donc elle savait dire les mots, elle savait prendre les gens au bon moment, c'était une beauté, c'était magnifique. Donc j'ai demandé moi aussi à avoir ce don. À ce moment-là, j'avais 19 ans, j'étais un peu jeune. Et Dieu, dans son amour, a juste entrouvert pour moi l'accès à ce don. Il ne me l'a pas complètement, j'ai pas pu complètement le maîtriser. Je pouvais discerner quels esprits animaient les gens, quels esprits avaient pris habitation chez certaines personnes. Et je me souviens toujours, j'avais été chez un homme à Grandson. Et on était là dans sa maison et tout à coup j'ai vu des panthères qui tournaient sous son bureau. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il dit, oh, Mais Camélia a vu la même chose. Alors, pour moi, c'était une confirmation. Mais quand même, bon, je les voyais. Et je lui dis, mais tu sais, mon frère, je crois que là, c'est grave. Il vaudrait mieux que tu déménages. Il m'a dit, mais Camélia m'a dit la même chose. Voilà. Donc, c'était des choses comme ça qui se passaient dans ma vie. Mais j'avais 19 ans et ça m'effrayait un peu. J'avoue que ça m'effrayait un peu. Je marchais dans la rue et puis je voyais jamais en face les choses. C'était toujours sur le côté. Je voyais sur le côté, là, des trucs qui grouillaient, des esprits qui grouillaient autour des gens. Ça me faisait un peu peur. Et j'en ai parlé avec Camélia quand elle est revenue. Elle m'a dit que c'était un don qui était lourd à porter et que j'étais pas assez mûr dans la foi. Ça ne veut pas dire que je croyais pas, mais j'étais pas assez mûr dans la foi, ni dans la connaissance des Écritures, et ni dans. Elle n'a pas employé le mot psychologie parce qu'elle n'aurait pas pu le dire. Hein, elle aurait dit psychologie ou je sais pas quoi. Hein, mais j'étais pas assez, j'avais pas assez de sagesse. J'étais trop jeune. Alors elle m'a dit, tu ferais mieux de demander à Dieu de te l'ôter, ce don, en tout cas pour un moment, de te l'enlever. Et c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai toujours été soumis aux anciens, qui étaient des gens spirituels ou des gens, enfin, spirituels et intelligents. Mais quand je vois quelqu'un qui est soi-disant spirituel et qui est bête comme ses pieds, ça, je suis désolé, c'est impossible de me soumettre. Hein. J'ai eu pas mal de problèmes avec les pasteurs justement à cause de ça, parce que je ne pouvais pas me soumettre. Je voulais pas commettre de suicide intellectuel. Hein. C'était impossible. Mais Camélia, quand elle disait quelque chose, ben, fallait faire attention. Raphaël aussi, pareil, c'était un homme de Dieu. Donc j'ai prié le Seigneur en m'humiliant d'avoir demandé un don que je n'étais pas vraiment à même de gérer à cause de ma jeunesse. Et Dieu m'a exaucé. Et je voyais plus rien. Et j'étais content. Je voyais plus rien. Et c'était un soulagement. Et voilà. Et puis les années ont passé. Et alors que je ne demandais rien, depuis quelque temps, mes yeux se sont de nouveau ouverts. Et j'apprends à discerner de nouveau les esprits. Les esprits qui animent les gens. Ils accompagnent la plupart des gens. La plupart des gens sont pas possédés forcément, mais accompagnés par un esprit qui tourne autour et qui les anime de temps en temps. Même des chrétiens. Beaucoup de mauvais esprits accompagnent les gens depuis quelque temps en riant, mais en riant. Parce que les gens sont entrés dans leur jeu, le jeu de la terreur. Même des chrétiens. La peur. Vendredi soir, je vous parlais de la bonté et je vous disais que l'homme, l'être humain, n'est pas bon. Jésus dit clairement, il n'y a que Dieu seul qui est bon. Et nous sommes venus sur cette terre en tant que ses enfants pour manifester sa gloire, pour accomplir sa volonté. Et il nous a laissé un texte sacré, la Bible. Et dans ce livre sacré, il nous est dit 365 fois de ne pas craindre, de ne pas avoir peur. Je me rappelle toujours, c'était le frère Manpiot, des Assemblées de Dieu, un docteur, qui avait dit 365 fois, comme ça on en a un par jour, même pour les années bissextiles. Il faut que nous ayons la foi que tout a un sens, que nous ne sommes pas seuls, que Dieu sait tout ce qui va nous arriver. Et que bien des souffrances nous attendent dans ce monde encore. Il faut que nous le sachions, que nous l'acceptions, que nous soyons calmes à ce sujet. Dieu dit de nous que nous sommes comme lui en ce qui concerne la connaissance du bien et du mal depuis la chute d'Adam et Ève. Et comme je vous l'enseigne depuis toujours, nous, les enfants de Dieu, nous ne fonctionnons pas avec cette connaissance. Bien sûr que nous avons toujours. Quand on se trouve en face de quelque chose de mal, on sait que c'est mal. Quand on voit quelque chose de bien, on sait que c'est bien. Voilà, bon. Mais nous ne fonctionnons pas avec ça, nous fonctionnons surtout avec la connaissance de notre Père Céleste et de Jésus-Christ par le Saint-Esprit qui est en nous et qui nous conduit, qui nous dirige. Et puis, alors, on est plus ou moins adroit, plus ou moins maladroit. Voilà, mais on apprend, hein, on apprend. Enfin, du moins, si on ne marche pas avec la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ par le Saint-Esprit, on est des chrétiens que la Bible appelle des chrétiens charnels. C'est-à-dire, voilà, on a une doctrine Et puis, notre vie, c'est précepte sur précepte, loi sur loi, jugement et condamnation, voilà. C'est malheureusement beaucoup sont. Et beaucoup pensent qu'ils ont le don de discernement des esprits, alors qu'en réalité, ils n'ont qu'un jugement, un esprit de jugement, un petit démon de jugement qui les suit et qui leur chuchote des choses. Jésus nous a dit, à nous ses enfants, que nous sommes dans le monde, mais que nous ne sommes pas du monde. Et cette phrase, elle a une portée extraordinaire. Il y a beaucoup de sens à cette parole. Et je vais en aborder un ce matin. Je vais vous expliquer comment fonctionnent les gens qui ne sont pas nés de nouveau, qui ne connaissent pas notre Père céleste. Pour eux, et on le voit de plus en plus, la frontière entre le bien et le mal, c'est pas très clair. C'est pas très clair. En fait, pour eux, il n'y a pas vraiment de bien parce qu'il n'y a pas vraiment de mal. Voilà. On appelle bien ce qui est mal, on appelle mal ce qui est bien, on ne sait plus. Voilà. Puis il y a des lois officielles dans les nations qui permettent de faire des choses qui, il y a encore 15 ans, auraient été des abominations. Le soir, mais non, maintenant, c'est comme. Voilà. La frontière n'est pas très claire. Et ce que nous appelons la vertu, pour eux, eh ben, c'est qu'une forme ou une facette, si vous voulez, de la terreur. De la terreur. Et c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à croire en Dieu, parce que aussitôt qu'on parle de vertu, ça fait peur. Pour eux, je vais vous expliquer. Pour eux, la vie ici-bas, en fait, c'est qu'une mauvaise plaisanterie de Dieu, si Dieu il y a. C'est comme ça qu'ils raisonnent, hein. Je vois par exemple cet été, nous étions, Michou et moi, avec les enfants, les petits, nous étions à Cannes, en famille, et nous avions un balcon qui donnait sur la piscine, et je regardais, et je voyais ces bonnes femmes à moitié nues, enfin plus qu'à moitié nues, et les hommes aussi, à la piscine, et puis je voyais certaines personnes avec des esprits autour, et je voyais par exemple un brave père de famille qui apprenait à ses enfants à nager, et puis je voyais qu'il était tenaillé par un esprit qui lui donnait envie de coucher avec sa secrétaire, mais il était terrorisé d'avance par la réaction qu'aurait pu avoir sa femme si jamais il se faisait choper, parce que c'est elle qui possédait la fortune et que lui, sans sa femme, il n'était plus rien. Vous voyez? Je voyais aussi cette autre femme qui aurait tellement aimé, souhaité travailler, avoir son indépendance, mais qui restait au foyer parce qu'elle était terrorisée par un mari tyrannique. Je voyais aussi d'autres choses. Je voyais, au restaurant, un soir, je voyais des enfants qui étaient bien droits, assis comme ça, tellement sages, tellement gentils. Mais est-ce qu'ils auraient été si sages, si gentils, s'ils n'avaient pas été terrorisés par la punition de ce père à l'air d'un. Il avait une tête de colonel terrible. Et cette jeune fille qui. Alors, ça, c'était aussi à la piscine, elle lisait un livre de Bernard Werber. J'aime beaucoup Bernard Werber, il va sortir un bouquin bientôt, là, en début octobre, sur les rêves. Je me réjouis de voir ce qu'il va dire. Et elle lisait un livre de Bernard Werber, et puis elle était seule sous son parasol, et puis elle prenait un air blasé. Vous savez, c'est comme si. Je fais la grimace, là, la jeune fille qui prend un air blasé. Alors évidemment, sur Internet, vous ne voyez pas ma grimace, mais vous pouvez deviner, hein. Elle prenait un air blasé, il y avait des garçons qui passaient, tout ça, mais elle ne les regardait pas. Et au fond de son cœur, elle était terrorisée de rester vieille fille. Je voyais toutes ces choses. Et ce jeune homme qui s'astreignait à faire du sport, et puis parce qu'il était terrorisé de ne pas répondre à l'attente de ses parents, qui eux-mêmes étaient des sportifs, et ils voulaient que leur fils soit aussi, n'est-ce pas, brillant dans le sport. Et puis le soir aussi, ce garçon qui servait des cocktails, on voyait bien que c'est un étudiant qui travaillait certainement en intérim pendant ses vacances et qui souriait aux gens. Il servait des cocktails tropicaux à des gens bourrés de pognon. Et puis, il souriait, mais malgré ça, je pouvais discerner qu'il était terrorisé par le fait de « si je fais une bêtise, je vais être renvoyé, je vais être congédié. Comment je vais faire après ?» Les gens sont sous le régime de la terreur. Il y avait une autre jeune fille terrorisée par les critiques de ses amis sur Facebook. Il y avait cette autre qui avait renoncé à être danseuse et qui suivait des cours de droit parce qu'elle était terrorisée par le candidat-on, par ses parents, par la famille, et puis ce vieux monsieur bedonnant qui partout disaient: Ah, moi, vous savez, je me sens tellement mieux depuis que j'ai arrêté de fumer. Je me sens tellement mieux depuis que je mange mieux et que je bois plus d'alcool. Et puis je voyais la terreur de la mort qui sifflait comme le vent à ses oreilles. Il était terrorisé par la mort. Alors, voilà. Et puis il était tout content de dire qu'il se sentait tellement mieux. Et puis il y avait un couple aussi, ça c'était au bord de la mer. Ils gambadaient dans les vagues et puis ils riaient tout. Puis c'était un rire qui était déguisé parce qu'en réalité, ils étaient dans la terreur de devenir vieux, invalides, inintéressants, comme leurs vieux parents qu'ils avaient laissés dans une maison de retraite. Et puis ils savaient bien que ça leur pendait au nez, ils étaient terrorisés par ça. Et puis cet homme tout bronzé au bord d'un. On a vu des yachts magnifiques, hein, vous vous rappelez les enfants. Il y a un homme qui était assis, il était tout bronzé sur son yacht, et puis il y avait sa femme qui arrivait sur le quai, et puis il lui faisait des grands signes en souriant, mais ça cachait une terreur qu'il ne quittait jamais, l'idée que ses placements en bourse pourraient s'effondrer d'un moment à l'autre, n'est-ce pas? La terreur. Les gens vivent dans la terreur. Et puis même le propriétaire de notre hôtel qui observait, c'était paradisiaque cet endroit, mais il était soucieux, soucieux du confort de ses clients. Et puis il y avait son administrateur qui avait un esprit à côté de lui qui le terrorisait en lui faisant penser que si le fisc débarquait, eh bien il verrait, il découvrirait toutes les irrégularités dans sa comptabilité. Et il était terrorisé. Dans ce cadre magnifique de vacances, les gens étaient tous en proie à la terreur. Terreur de se retrouver seul, terreur des commentaires des autres, terreur du jugement de Dieu, certains, terreur de risquer de quelque chose et puis de perdre, terreur de gagner et puis d'être ensuite jalousé, terreur d'être aimé et puis ensuite repoussé. Hein, ça, c'est beaucoup de gens comme ça. Terreur de demander une augmentation, terreur de se lancer dans l'inconnu, terreur d'être remarqué ni pour ses qualités ni pour ses défauts, de passer complètement inaperçu. Terreur, 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 terreur. La vie, c'est le régime de la terreur, mes frères et sœurs. Tout un chacun est terrorisé, c'est pourquoi Jésus nous dit: Ne crains pas, petit troupeau, ne crains pas. C'est très important d'obéir à ça. Faut obéir. C'est pas une question de mais je peux pas, je sens pas, je suis terrorisé. Non, tu obéis. Tu dis je ne crains pas. Tu le confesses. Et puis quand le petit démon vient pour te gratouiller là-dessus, tu dis hey, dégage au nom de Jésus, je ne crains rien. Amen. Je ne crains rien. Quand une personne vient à Jésus, elle passe des ténèbres qui font peur à la lumière qui rassure. Hein? Faut pas oublier ça. On est dans la lumière, si on marche dans la lumière. Et tant que ta vie est dans la lumière, tu n'as pas à avoir peur. Tu n'as pas à avoir peur. Un jour, il y avait une personne qui était accompagnée depuis longtemps par un petit démon, et puis elle lui a posé cette question. Elle a posé la question à ce démon. Mais où est l'origine du mal? Pourquoi ce monde est sous l'emprise du mal comme ça? Et le démon lui a répondu. Il a dit, c'est vain d'essayer de découvrir pourquoi j'existe. Si tu veux une explication, c'est le démon qui le dit, hein. Tu n'as qu'à te dire que je suis la façon dont Dieu se punit d'avoir décidé, dans un moment de distraction, de créer l'univers. Oui, il accuse Dieu, le démon accuse Dieu, c'est toujours Dieu. Hein? Si c'est pas Dieu, c'est le pasteur. Si c'est pas le pasteur, c'est le patron. Si c'est pas le patron, c'est le sous-chef. C'est toujours, c'est comme ça, n'est-ce pas? Ainsi va le monde. Ainsi va le monde. Les démons mentent, ils mentent. Et les gens le croient. Les anges parlent et même les chrétiens ne les croient pas. N'écoutent pas, ils pensent que c'est des démons. Ah! Tout est tordu, tout est tordu. Les gens sont vertueux parce que la terreur les obnubile. C'est difficile à dire ce mot, obnubile. J'ai toujours envie de dire obnubile. Oh, je sais plus comment. Enfin, bon. En tout cas, une chose est certaine, les gens sont vertueux parce que la terreur les obnubile. C'est vrai, mes frères et sœurs. Je parle des gens du monde, mais Jésus dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. L'essence des gens, c'est la perversité, mes frères et sœurs. Il y a quelque chose de mal en chacun. Il y a de la postérité du serpent, on le sait, hein, il y a eu avec Caïn, Et ensuite, il a eu des fils et des filles, mais elles se sont mélangées avec les fils d'Adam, les filles d'Adam, et puis ça a fait un mélange, si bien qu'aujourd'hui on a tous un cerveau reptilien, on a tous quelque chose en nous de rétréci, non, de Tennessee, non, de reptilien. On a tous, Paul dit, c'est le péché, c'est pas moi, c'est le péché qui est en moi. Le péché. Il y a du reptilien dans chaque être humain. Et ce n'est que par la nouvelle naissance qu'on peut échapper à cette malédiction. Il nous faut naître de Dieu, sinon c'est impossible, impossible d'entrer dans le royaume de Dieu, même ici-bas. Et puis elle aura plus forte raison après. Quand on est né de nouveau, alors on se met à apprendre beaucoup de choses. Comme un enfant, on apprend. On n'est pas mûr tout de suite. On apprend petit à petit. Et l'une des choses les plus importantes, ça le démon vous le dira jamais. Il vous le révélera jamais. Mais lui aussi, il est dans la terreur. Amen.
Amen.
Il est dans la terreur. Amen.
Amen.
Gloire à Dieu. Un vrai disciple, il croit en Dieu. Un vrai disciple, il croit que Jésus est son sauveur. Un vrai disciple, il n'a pas peur de Dieu parce qu'il n'a pas peur du châtiment. Parce qu'il marche dans la lumière. Par contre, les démons croient en Dieu et ils tremblent. C'est Jacques, pas mon gendre, mais l'autre, l'apôtre. Jacques 2, 19 qui nous dit ça, que les démons croient en Dieu et ils tremblent. Ils croient qu'il n'y a qu'un seul Dieu, comme nous. Vous voyez, ils ne sont pas trinitaires, les démons. C'est peut-être la preuve que la non-trinité est une. Non. Ils croient en un seul Dieu et l'apôtre Paul dit, et Jacques il dit là, ils ont raison. Mais ils tremblent. Ils tremblent pourquoi? Parce que leurs intentions sont mauvaises, toujours. Nous, quand il nous arrive, nous autres chrétiens, quand il nous arrive de faire une bêtise, quelque chose de mal, ce n'est pas intentionnellement. Mais eux, c'est toujours des mauvaises intentions. Ils sont méchants dès le commencement. Alors pour ceux qui ont écouté ma prédication de vendredi soir, vous le savez déjà, mais pour les autres, je vais le redire. L'enfer de Dieu, parce qu'il y a un enfer qui nous est réservé, mais en ce moment, Dieu vit un enfer et il réside précisément dans son amour pour l'humanité. Je vais éternuer là. Pardon. Je répète, l'enfer de Dieu réside précisément dans son amour pour l'humanité parce que les attitudes humaines le tourmentent chaque seconde de sa vie éternelle. C'est son enfer. Et il vous faut savoir, vous qui m'écoutez, que vous avez besoin de ce qu'il y a de pire en vous pour atteindre ce qu'il y a de meilleur en vous. C'est comme ça. C'est comme ça. Et c'est bien que ça soit comme ça. Nous sommes tous venus sur la terre avec des tares, avec des choses dont nous ne sommes pas très fiers, on aimerait bien s'en débarrasser. Et souvent, on est miné par un sentiment d'impuissance. On se dit, mais pff, ça me colle à la peau. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi c'est pas un autre? Si j'avais pas ça, je serais parfait, des fois, je dis. Ben voilà, justement, Dieu veut pas que je sois parfait. Il veut être le seul à être parfait. Vous n'arrivez pas à être bon comme vous le voudriez. Et puis, vous n'arrivez même pas à être aussi méchant que parfois vous pensez à votre avis, vous le devriez. Hein? Et parfois, il vous semble que ce qui vous arrive, ce n'est pas juste. Alors, je vais vous révéler quelque chose. Votre problème en tant que disciple de Jésus-Christ, ce n'est pas la justice ou la non-justice de Dieu. On parlait l'autre jour, vendredi, de Job. Votre problème, c'est que vous avez toujours choisi de vous placer comme la victime des événements, des circonstances. Ça, c'est pas bon. Il faut pas se placer comme la victime. Non. Moi, je fais pas ça. Depuis que je vois, depuis que je discerne comment les démons tournent les chrétiens en bourrique, alors, je me révolte. Pas contre Dieu, évidemment, mais contre ce qui m'arrive. Je me révolte. Et je me fiche de ce que les gens pensent de mon comportement. Je m'en fous, je m'en fous. J'agis pour le bien de ma famille, pour pour le bien de ceux que j'aime, mes frères et sœurs, l'Église de Jésus-Christ. Et je ne me laisse pas faire par des esprits inférieurs. Ces esprits inférieurs se servent de gens inférieurs, de gens spirituellement bas de plafond. Alors, je me révolte et j'agis. Trop de chrétiens se planquent dans le rôle de l'orpheline désemparée. Et ils s'y complaisent et ils voudraient qu'on les accepte dans ce rôle-là. C'est dégoulinant, c'est dégoûtant, c'est répugnant. Sortez de cette attitude, c'est pas une bonne attitude. Ils veulent être pleins, ils veulent être aimés comme des pauvresses, n'est-ce pas? Ah, on ne comprend pas, mon personne ne m'aime. Et puis ce besoin petit à petit de vouloir être aimé comme des pauvresses, il commence à se changer, à se transformer en une soif de vengeance. Et dans leur chambre, n'est-ce pas, il y a toutes sortes de sombres dessins qui prennent naissance dans leur cerveau déréglé et malade. Rien ne fait plus rigoler le démon. Je vous l'ai dit. Alors je vais m'arrêter là ce matin, parce que je trouve qu'il y a suffisamment à réfléchir là-dessus déjà. Je vais vous laisser réfléchir sur ces choses toute la semaine et vendredi, j'y reviendrai. Vous voyez, nous avons à lutter contre des esprits, pas contre des gens. Il y a des gens qui nous embêtent ici. Comme des morpions, ils s'accrochent, n'est-ce pas ? Ce serait tellement mieux ailleurs et ça leur coûterait tellement moins cher d'être ailleurs. Mais non, ils s'accrochent ici. Parce qu'ils ont peur. Je ne sais pas de quoi ils ont peur, mais ils ont peur. Peut-être que je les vole ou je ne sais pas. Les gens qui vous attaquent ont peur. Rappelez-vous de ça. C'est pourquoi ils vous attaquent. Mais en vérité, ce ne sont pas eux qui vous attaquent, ce sont les esprits qui les animent. Ils sont animés par des esprits. Rappelez-vous, un jour, il y a des gens qui n'ont pas voulu recevoir Jésus et ses disciples. Alors, les propres disciples de Jésus ont dit, ils étaient pleins de foi, n'est-ce pas ? Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume comme Élie le fit ? Et Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez pas par quel esprit vous êtes animés. Voyez, quel est l'esprit qui vous anime ? Il dit, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les hommes, mais pour sauver les hommes. Vous trouvez ça dans Luc 54, 56. Discerner les esprits qui animent les gens, c'est lourd à porter. Parce qu'on voit qu'ils ne sont pas libres comme ils le croient. Ils se croient libres, ils vous disent des choses invraisemblables, ils prennent des libertés incroyables. Mais ils sont animés. Un peu comme des pantins. Alors c'est lourd parce que si on ne discerne pas que c'est des esprits, alors on pense que c'est eux et alors on leur en veut. Il ne faut pas leur en vouloir, c'est des pauvres gens, des très pauvres gens. Alors c'est difficile à gérer parce qu'ils sont là, hein. Ils sont bien là, on les voit toute la journée. Je me rappelle, c'est un petit peu comme... On était à Teen Challenge et moi j'avais jamais vu un drogué de ma vie. Puis voilà que j'étais dans le centre de réhabilitation pour drogués. Alors il fallait absolument qu'on apprenne un peu ce que c'était que la personnalité du drogué. Alors Bill Williams nous expliquait parce qu'il avait une connaissance là-dessus. C'était mon directeur, notre directeur. Il disait un drogué, vous voyez un gars qui a 35 ans, qui est drogué à fond de cale, et vous pensez qu'il a 35 ans. Non, il a 6 ans. Il a 6 ans dans sa mentalité. C'est un sale gamin. Il faut que vous le traitiez comme ça. Mais c'est difficile quand vous avez un grand balèze de 35 ans devant vous, avec ses revendications, avec ses cris et toutes ces manifestations, de penser qu'en fait, c'est qu'un gamin de 6 ans capricieux, qui veut tout de suite sa sucette, qui veut tout de suite son petit train électrique. En fait, lui, c'était tout de suite sa drogue. Et c'était des menaces. Et c'était... Il y en a un qui nous avait couru derrière avec un... dans les escaliers avec un grand couteau de cuisine, ils voulaient nous tuer. On en a vécu de ces choses. Oh, on n'en est pas encore là avec les nôtres, mais... Bon, ils sont quand même là, quoi, je veux dire. Il faut les plaindre, c'est malheureux pour eux, ils sont manipulés. Ils sont manipulés. Mais C'est comme, alors on les voit eux, il faut voir qu'il y a des esprits derrière, c'est ça qu'il faut comprendre. Alors c'est difficile à gérer parce que certains de ces esprits ont été placés sur eux, et avec eux, pour pas dire pour certains en eux, par Dieu. Pour une raison. Et cette raison, parfois, elle nous échappe. On ne sait pas pour quelle raison. Hein, on a eu dernièrement une histoire et on disait, mais pourquoi, Seigneur, pourquoi tu ne nous exauces pas? Pourquoi toutes ces portes se ferment? Et après, on a compris. On a compris. On dit, oh, mais Seigneur, merci et pardon, pardon d'avoir tant insisté dans la prière parce que, en fait, tu nous protégeais. Hein, c'était magnifique. Et ça nous a mis dans une grande paix, mais il fallait juste qu'un peu de temps se passe. Des fois, la raison de Dieu nous échappe. Il n'est pas obligé de nous dire tout. Et puis c'est bien, ça rend la vie piquante, ça rend la vie. On se sent vivre comme ça, non? Hein? Ouais, pas toujours quand même, c'est embêtant des fois. Mais alors, pour connaître les raisons de pourquoi Dieu place des esprits comme ça sur les gens, alors là, il faut un autre don. Il y a 9 dons, hein. Il faut un autre don. C'est le don de parole, de connaissance, où il y a aussi le don de parole de sagesse. C'est-à-dire, tout à coup, il vous vient une parole, vous savez, vous avez la sagesse du pourquoi de Dieu, la connaissance du pourquoi les choses se passent comme ça. Mais ça, c'est tout un autre monde encore. Et c'est aussi lourd à porter. C'est aussi lourd à porter. C'est pas facile. C'est comme ceux qui veulent être prophètes. C'est difficile, c'est lourd à porter. C'est lourd. Parce que quand vous êtes prophète, Dieu vous révèle des choses, mais ce n'est pas toujours des choses qu'il faut dire. Parce que Dieu n'est pas bavard. Il parle à ses prophètes pour que les prophètes prient avec d'autres prophètes. Hein? Mais pas forcément pour qu'ils aillent blablabla, dire des choses comme ça. Et puis vous avez des gens qui pensent qu'ils sont prophètes alors qu'ils sont simplement eschatologues. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Vous savez que cette nuit, il y a l'éclipse de lune. Vous allez la regarder. Moi, j'aimerais bien la regarder parce que c'est très beau, mais je ne la regarderai pas parce que non, je m'en fous des eschatologues. C'est ma manifestation, ma façon de manifester dans ma révolte. Non, je ne regarderai pas l'éclipse de lune, je m'en fous. Je m'en fous. Il n'y aura rien qui va se passer. Rien du tout. Soi-disant, le prince William, le fils de Lady Di, va devenir l'antichrist. Là, il va se présenter avant la fin du mois. Mais n'ayez pas peur, c'est faux. Vous voyez, il y a les imitations des dons. Les gens imitent les dons. Mais un jour ou l'autre, ils sont pris à leur propre jeu et puis ils sont dévoilés. Voilà. Ça, c'est tout un autre monde encore. Prions. Je reviendrai sur ces choses vendredi. Amen. Ça vous parle, ça vous a fait du bien ce matin. Que Dieu vous bénisse. Merci Jésus d'aider mes frères et sœurs qui sont ici, mais aussi ceux qui écoutent sur Internet. Je te prie Seigneur que tu les aides à voir comment ils peuvent dans leur vie, dans leurs problèmes de couple ou leurs problèmes au travail ou au chômage ou que sais-je avec leurs enfants. Comment ils peuvent adapter toutes ces choses, toute cette connaissance, afin de pouvoir être libres et de se révolter, non pas contre toi, ni contre les gens, mais contre tous ces mauvais esprits. Et qu'ils puissent être à même de manifester un amour parfait pour leur famille, pour leurs bien-aimés, pour leurs frères et sœurs. Merci Jésus, sois béni mon Dieu. Amen. Amen. C'est rigolo, pendant que je priais, j'étais en train de penser, je dois être le seul pasteur au monde qui prêche assis sur un billard. Ouais, vraiment, je fais rien comme les autres. Allez, bon dimanche, Dieu vous bénisse. On va chanter.